Charles Bédé, bonjour.
Bonjour.
Charles Bédé, vous êtes un entrepreneur et aussi un homme politique. Donc, à travers ces deux casquettes, vous agissez dans la société. Vous êtes fondateur de Gravitation, c'est un fonds d'investissement, c'est votre casquette d'entrepreneur. Vous êtes aussi conseiller municipal du 8e arrondissement de Paris, sur une étiquette divers droite. C'est votre casquette politique. Et avec cette casquette, vous avez aussi créé un réseau qui s'appelle l'Avant-Garde, qui est un réseau transcourant, j'imagine, dans les différentes familles de la droite. Vous venez de sortir un ouvrage qui s'appelle « Charnellement de France » aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Alors cet ouvrage, on pouvait s'attendre en toute logique, compte tenu de votre parcours et des livres précédents que vous avez écrits, à un livre de patron qui va nous parler d'économie. Or, surprise, pas du tout, c'est un livre politique, certes, mais d'abord de philosophe et d'historien. Est-ce que le monde patronal peut comprendre votre démarche ou est-ce que vous êtes aujourd'hui clairement en train de quitter cet univers institutionnel du patronat dans lequel vous évoluez toujours puisque vous êtes au conseil stratégique du MEDEF?
Alors, des livres d'économie ou d'entrepreneuriat, j'en ai déjà écrit plusieurs et je continuerai peut-être à en écrire. J'aime bien donner des conseils aux jeunes entrepreneurs et d'ailleurs j'aime bien les accompagner à travers mon fonds d'investissement. Mais si j'ai voulu écrire ce livre, que j'ai coécrit avec Benoît Dumoulin, c'est parce que je pense que la situation est tellement grave qu'il faut traiter d'autres sujets que les sujets économiques et sociaux. Parce que même si on avait là, tout d'un coup, par un coup de baguette magique, à la tête de l'État, quelqu'un qui faisait toutes les réformes économiques les plus intelligentes de la planète, eh bien, en fait, on ne retrouverait pas la confiance parce qu'elle est tellement basse qu'on n'aurait donc jamais de croissance. Et donc, c'est pourquoi je pense qu'il faut d'abord maintenant traiter le problème. Les choses sont tellement dégradées. Il faut traiter le problème culturel et identitaire. Puis, bien sûr, en parallèle, les sujets économiques et sociaux, mais qui sont secondaires par rapport au principal, qui est donc crise, cette insécurité culturelle dans laquelle nous sommes.
Alors, on peut comprendre votre démarche, mais vous voyez bien qu'elle s'inscrit en totale rupture par rapport au discours patronal institutionnel. Je pense bien sûr à Laurence Parisot, mais je pense aussi à Pierre Gattaz, à bien d'autres patrons qui se sont exprimés. Les sujets politiques, surtout à résonance identitaire, il faut le dire, ça terrorise le monde patronal. Est-ce que du coup, vous n'êtes pas un dissident de ce monde ?
Ah ben si, je suis...
monde institutionnel,
Cette étiquette de dissident, avec plaisir, c'est pour moi une... Ça me flatte, ça m'honore. Mais je pense que c'est important parce que, en effet, le MEDEF et les grandes organisations patronales, elles sont là pour défendre les intérêts des patrons et faire du lobbying auprès du gouvernement sur... et uniquement sur l'économique et le social. Mais comme je vous le disais, le climat de défiance est tel que si on est entrepreneur, à la limite, entrepreneur égoïste, on veut de la croissance. Pour qu'il y ait de la croissance, il faut de la confiance. Et donc, il y a un tel climat de défiance que ça ne peut pas marcher. Et donc, il faut traiter ces autres sujets. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre, qui est parti, en fait, déjà de plusieurs années par des tribunes que j'avais publiées dans Valeurs Actuelles et dans différents réseaux sociaux. Et à un moment, je me suis dit, ça n'avance pas. Et donc, j'ai voulu rassembler tout ça dans ce livre.
Est-ce que vous pensez, on parlera ensuite du reste du pays, mais est-ce que vous pensez être compris dans cet univers patronal? Est-ce que vous êtes un précurseur ou un marginal?
Mais je pense que je suis compris, mais ils peuvent pas l'accepter dans des cercles officiels. Lorsque je dîne avec des patrons, ça m'arrive, et qu'on a terminé deux bouteilles de bon vin, ils sont tous d'accord avec ce que je dis.
C'est intéressant à savoir.
En revanche, quand je suis au conseil d'orientation stratégique du MEDEF et que Pierre Gattaz nous présente son plan pour faire en sorte que les idées du MEDEF soient reprises par tel ou tel gouvernement, là, on me prend pour un fou. Mais c'est pas grave.
C'est un peu schizophrénique. Alors, votre livre s'appelle donc Charnellement de France et c'est un plaidoyer en fait pour le réenracinement de la France dans sa tradition chrétienne. Vous auriez presque pu appeler votre livre « La France et le génie du christianisme ». Avouez quand même que là, vous aggravez votre cas. C'est provocant par rapport aux standards du politiquement correct d'aujourd'hui, dans le monde patronal ou dans le monde politique et le monde médiatique.
Mais je ne sais pas par où commencer. La France a tout pour réussir. On est un pays qui a 15 siècles d'histoire, qui a tout, qui est béni des dieux. Simplement, là, actuellement, on traverse une crise, une psychose sans précédent, parce qu'on a eu, il faut le reconnaître, deux ruptures très violentes qui ont été la Révolution française d'une part, puis ensuite...
Avoir monté à loin.
Mai 68, on est on s'est tellement haï que on peut plus faire aimer la France aux Français, et notamment les Français de souche récente. Et du coup, on a une crise identitaire, et puis cette insécurité culturelle qui s'est développée. On a le nihilisme salafiste qui nous met à rude épreuve. Et je vois bien que les politiques proposent des solutions qui sont pas du tout adaptées, qui sont impossibles. Soit c'est la laïcité sectaire, donc on interdit toute manifestation du sentiment religieux dans l'espace public, et ça nie la dimension religieuse de l'homme, la soif de spiritualité.
Et sa tradition identitaire chrétienne, dont vous parlez abondamment votre ouvrage.
Absolument, et notre propre racine et notre identité. Donc c'est inepte, c'est utopique, et même techniquement c'est impossible à mettre en œuvre. Soit c'est le multiculturalisme, et donc c'est-à-dire qu'on renonce, Charles, c'est vrai, on a eu une grande culture dans le passé, mais c'est fini, c'est trop tard, ça c'est Juppé qui nous avoue, vous voulez quoi? Vous voulez la guerre civile? Et donc, et qui renonce à affirmer notre uniculturalité, qui est pourtant attestée par ces 15 siècles d'histoire, cette belle langue de France, cette culture, cet art de vivre que le monde entier nous envie. Donc moi, ce que je propose, c'est de dire, il faut assumer ce que nous sommes, et il faut changer la Constitution, en effet, afficher notre enracinement culturel chrétien, et le propos n'est pas cultuel, n'est pas religieux, il est culturel, pour permettre ensuite au Conseil d'État, par exemple, lorsqu'il est saisi par je ne sais quelle association qui veut faire annuler des arrêtés anti-Burkini, de dire ils ont le droit, ces maires.
Ça correspond pas à notre identité.
Ils ont le droit, ces édiles de ces communes de France qui veulent se défendre, parce que ça correspond pas à nos traditions, à notre identité.
Alors, venons-en maintenant au politique et à son actualité. Emmanuel Macron vient de prononcer sa volonté de s'engager, vient d'annoncer sa volonté de s'engager dans la campagne présidentielle. Il est jeune, il représente l'esprit entrepreneurial, même s'il n'a jamais été entrepreneur, mais enfin il a vécu dans le monde du business et il parle beaucoup au nom des entrepreneurs, surtout l'univers des startups et de l'innovation. Donc on pourrait dire qu'il a aussi une formation intellectuelle très solide, il est philosophe à la base. On pourrait faire un parallèle entre vous et lui, on pourrait dire que vous jouez un peu dans la même cour. Qu'est-ce qui vous sépare fondamentalement d'un homme comme Emmanuel Macron ?
En fait, il va falloir l'écouter de près, parce que c'est vrai qu'il incarne une certaine modernité, et en même temps, il a cette culture, comme vous le rappelez.
Et il parle même de questions identitaires. Oui. Qu'il soit très ouvert à l'immigration, il va faire la fête de Jeanne d'Arc, il va au Puy du Fou, il parle de la tradition monarchique, il ose.
Je relisais le discours qu'il a prononcé à Orléans le 8 mai 2016, et c'est vrai qu'il y a cette volonté de vouloir réconcilier les deux France, la France fière de son histoire, de son identité, et puis cette France qui veut conquérir le monde. Donc moi, je suis sensible à ce discours.
Maintenant, qu'est-ce qui vous
sépare ? Maintenant, là, pour l'instant, ce qui nous sépare, c'est que moi, j'ai peur que ce soit qu'il ne sache pas renoncer au multiculturalisme. Donc, mais je vais l'écouter, je vais le suivre. J'irai peut-être le rencontrer pour essayer de lui dire qu'il ferait erreur, parce que il y a quand même, je pense, chez lui des talents qui pourraient, après tout, aider la France à sortir de cette nasse dans laquelle elle est. Mais j'ai un doute. Je vais essayer de J'ai de l'espoir, mais j'avoue qu'il faut quand même être raisonnable. Parce qu'il est entouré et il baigne dans cette ambiance de mondialiste, européiste, multiculturaliste. Donc,
il est soutenu pour être
soyons réalistes. Clair. Malheureusement, il est probable que je sois déçu. Mais je vais quand même essayer.
Pour être clair, il est soutenu par un patronat très mondialiste.
Oui, mais il peut leur résister aussi. Parce qu'il a cette indépendance, il a cette intelligence, cette culture, il peut aussi leur dire s'ils vont trop loin. Parce qu'encore une fois, ces petites cartes postales qu'il a envoyées depuis 2 ans avec son interview dans Le 1 sur la place du Roi, ce discours à Orléans, cette visite chez Philippe de Villiers au Puy du Fou, c'est quand même pas par hasard. Donc il y a quand même.
Je pense qu'il est trop intelligent pour ne pas comprendre le sens des choses.
Il y a des petits signes. Donc voyons, écoutons-le. Moi, je vais essayer de le rencontrer encore une fois. Et puis, probablement, on sera déçu, mais.
Le geste sera fait. Puisqu'on parle de mondialisation, ça a été un des thèmes central de la campagne américaine. Et on a vu qu'en grande partie, Trump a gagné sur l'idée de maintenant ça suffit, remettons des protections pour protéger nos industries notamment. Est-ce que selon vous, on peut aujourd'hui avoir un programme politique moderne, notamment sur les dimensions économiques, avec une approche protectionniste? Est-ce que vous assumez ce retour à une certaine défense de la territorialité de l'économie?
Oui, mais je pense que c'est le grand retour des frontières.
Et d'un certain
protectionnisme intelligent. Il faut pas être naïf. La Chine subventionne massivement son acier et ses panneaux solaires, par exemple, et massacre les Européens et les Américains. Donc il faut se protéger, il faut se défendre. On a des normes environnementales et sociales extrêmement dures et eux n'en ont aucune. Donc il y a un rééquilibrage nécessaire. C'est ça qui fait que Trump a été élu triomphalement. C'est avoir compris l'Amérique abandonnée en disant, vous avez besoin de protection donc aux frontières, plus de reprendre aussi plus de souveraineté par rapport à la mondialisation, et simultanément aussi un programme ordo-libéral intelligent avec une baisse massive d'impôts et des investissements dans les infrastructures qui sont en déroute. Et c'est ça qui lui fait gagner l'élection, évidemment.
Donc pour vous, un certain protectionnisme est tout à fait compatible avec une vraie modernité économique. C'est pas forcément antinomique.
En fait, je crois qu'on a eu, il y a eu plusieurs phases dans la mondialisation. Et là, on entre dans une nouvelle phase où c'est une mondialisation qui va avoir du relief. Et où, d'ailleurs, au niveau culturel, il y a un rejet complet de la McDonaldisation du monde. Et donc, on a besoin que les cultures des grands pays qui forment la planète soient respectées et soient remises en avant. Donc, je dirais pas que on va assister à une démondialisation, mais c'est une nouvelle mondialisation.
Pour terminer, Charles Bettbeguet, on va vous poser la question qui tue, mais elle est un peu incontournable. Hein. Nous sommes en période électorale pour la présidentielle de 2017. Est-ce que vous avez fait le choix d'un candidat ?
Moi, je défends tous les patriotes enracinés et qui veulent un État fort, mais à sa place, donc recentré sur le régalien. Alors, j'ai du mal à en trouver.
Ah, donc vous donnez pas un nom.
Il m'arrive parfois d'entendre Nicolas Dupont-Aignan et de trouver séduisant son discours. Mais sur l'école, par exemple, il a une vision beaucoup trop centralisatrice et étatiste. Je soutiens en ce moment Jean-Frédéric Poisson dans le cadre des primaires de la droite et du centre, parce que je pense que c'est le seul à avoir un discours cohérent, justement.
Il a posé la question identitaire.
Autour des frontières, de la souveraineté, des racines, et en même temps d'un État fort, parce qu'à sa place, est donc réduit et pas obèse. Et puis, pour la présidentielle, on a parlé de Macron tout à l'heure, on verra. Moi, je soutiendrai ceux qui défendent mes convictions, mes idées, et réciproquement, j'essaierai de nourrir les grands candidats de mes idées, notamment, c'est ce que je m'efforce de faire au sein de l'avant-garde, avec mes amis.
Charles Bettbeguet, merci. Je rappelle que votre livre s'appelle « Charnellement de France » et qu'il est publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux.
Merci de m'avoir eu ce matin.